Murder and Wine. Des meurtres et du vin.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
C'est qui, modération?
Hello!
Et bonsoir!
Ça fait pourquoi?
Et bienvenue!
Oh, des meurtres et du vin, The Podcast!
Oui, The Podcast, et puis il n'y a pas autre chose. Hein.
El Podcast.
Il
n'y
a pas de film.
Il n'y a pas de.
Y a
les
pas
meurtres
autre chose.
Et du vin 2, le retour, encore plus de vin.
Ça sera pour les enregistrements multiples.
Voilà, c'est ça.
Ça, on a déjà fait, ça nous a pas trop réussi.
Non, c'était horrible.
Oui, on a un peu arrêté.
En fait, on avait oublié le concept du vin, que du coup, on fait que boire pendant un épisode, et que si tu enregistres 2, voire 3, voire 4 épisodes à la suite, bah, au quatrième, tu sais même ouais, pas de quoi tu
parles. Il n'a jamais été publié.
Non, c'était une horreur.
Ouais, ouais, mais je ne l'ai pas entendu, je n'ai pas voulu.
Ah non, c'était horrible.
Bon.
Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas enregistré, j'ai l'impression. Ouais. Je suis très excitée.
Oui, on a plein de choses à vous dire, du coup.
Oui, mais alors, d'abord. But first, Kate Middleton.
Oh my God. Mon Dieu. Mais moi, je ne connais rien au Royal. Je me suis endormie. Oh. J'ai essayé pour toi de regarder The Crown, mais je m'endors. J'arrive pas. Je les trouve chantes.
C'était trop chante. Tu te moquais de tout. C'était.
Ah ouais. Oh. Mais, et là, encore une fois, j'avoue, je ne Kate, comprends pas l'obsession.
Où es-tu? En fait, là, alors, l'obsession de la famille Royal. Enfin, moi, c'est l'obsession de l'histoire. Je l'ai de ma mère. Comme ma sœur là de ma mère également, et en fait ma sœur est fan de Kate Middleton, ne lui demandez pas pourquoi. Et du coup, avant qu'il y ait tout ce truc avec toutes ces vidéos de Kate Middleton, elle est où la photo, machin, en fait ma sœur m'envoyait des messages en disant « putain mais je suis en PLS là, on n'a pas de nouvelles ». Et je fais « mais ça va » et tout, moi je me rendais pas compte que ça faisait depuis Noël qu'il n'y avait pas eu de photos en fait et d'apparitions.
Je l'aurais pas su non plus. Hein.
Ah, et là, mais tu sais comme on dit là, le rabbit hole, je suis allée dans le trou du lapin de
ouais,
Kate Middleton.
Famille est dégoûtante, en fait. C'est horrible.
Après, dans l'affaire Kate Middleton, c'est quelqu'un qui connaissait très bien, enfin, elle est anglaise.
Oui, mais on sait très bien comment ils traitent les femmes dans cette famille.
Bien sûr. Mais elle est anglaise, elle fait partie de la bourgeoisie anglaise, elle sait très bien ce que c'est la famille royale, elle sait très bien ce que ça implique. Et elle a beaucoup, beaucoup cherché à être la femme de William, prince d'Angleterre.
D'accord. Ouais.
Voilà. Donc, mais bon, ça, tu sais pas. Moi, je sais. Peut-être que toi, derrière tes écouteurs, tu sais aussi. Je compatis.
Ouf.
Voilà. Mais du coup, alors, ma théorie.
Oh my God. Juste pour les écouteurs et auditeurs, j'ai déjà entendu la théorie. Hein, donc, je subis là.
Que William donc, a une maîtresse comme Charles avec Camilla.
Et Andrew avec les ados.
Les adolescentes mineures. Et du coup, donc, avec cette maîtresse Rose something, je ne sais plus comment elle s'appelle.
Quelle historienne.
Voilà, I know. Buttercrack.
Rose Buttercrack.
Et du coup, elle est apparemment, donc elle serait enceinte et Kate, elle serait en plein genre volonté parce qu'elle sait la force qu'elle a dans cette famille et elle refuse de se montrer.
D'accord.
À la okay. Diana. C'est tout ce que j'avais à dire sur cette histoire.
On peut passer à autre chose?
Merci.
Oh, mon Dieu, Kate, s'il te plaît, reviens qu'on puisse arrêter d'en parler.
Come back, Kate.
Alors, moi, dans les conseils des programmes, on ne s'est pas vu depuis longtemps, j'ai vu pas mal de trucs.
Oh.
Je suis à fond. Alors, le premier, c'est le programme, ou The Program, sur Netflix. Si tu n'as pas vu, cours le regarder.
OK.
Alors, c'est un documentaire en, je sais plus quoi, 3-4 épisodes.
Okay.
Alors, c'est un truc qui se fait encore aujourd'hui, mais quand même avec beaucoup plus de, c'est plus connu et très mal vu. Mais à une certaine époque, dans les années 80 ou 90 aux États-Unis, quand tu avais un enfant, entre guillemets, difficile, tu pouvais les envoyer dans des écoles qui allaient les encadrer. Sauf que ces écoles, c'était de la poudre aux yeux, en fait. Il y avait pas d'éducation et c'était de la torture des enfants. Donc là, il y a une des filles donc qui n'était pas spécialement même problématique. En fait, c'était un ado tout à fait normal. Mais quand sa mère est décédée, a forcément eu des difficultés à accepter le décès de sa mère.
Ouais.
Et c'est vraiment l'histoire classique avec une belle-mère méchante qui
marâtre.
Arrive sur scène et le père qui, en fait, ne souhaite pas s'imposer.
Ouais.
Et du coup, elle est envoyée dans une de ces écoles où, en gros, en fait, t'es dans une école et tu dois respecter un certain nombre de critères pour gagner des points. Et c'est seulement quand tu as gagné suffisamment de points que tu puisses sortir.
Mais, ah, mais attends, c'est le truc avec Paris Hilton.
Paris Hilton, on en parle. On la montre un tout petit peu dans le truc, mais c'est encore autre chose. Parce qu'elle, elle revient avec beaucoup d'anciens camarades pour aller visiter là où elle était, vraiment faire une investigation. Enfin, super documentaire. Elle est, elle est au top, la fille, en plus, parce que elle raconte son histoire, vraiment. C'est quelqu'un, tu la sens de très joyeuse, de très gaie, mais qui a subi, qui a des traumas. Mais c'est vraiment la personne parfaite pour raconter cette histoire parce que elle l'a vécu. Elle arrive à le voir avec le ton sérieux qu'il faut, mais aussi avec, elle a pas été abattue par la vie.
Oui.
Donc, enfin, en tout cas, les écoles étaient faites pour en sorte que les enfants, en fait, ne sortent jamais parce que ben, c'était un cash cow. Les parents payaient énormément d'argent pour envoyer leurs enfants là-bas. Et donc, le plus longtemps l'enfant peut y rester, le mieux c'est, le plus d'argent. Donc, des millions, des milliards ont été dépensés. Et personne n'a encore vu, ne serait-ce qu'un seul jour, exactement.
Ouais, donc, c'est sur ma liste.
Ah, ben je vous le recommande vivement.
Je vais mettre sur, c'est pour ça que je cherche, je vais mettre sur Instagram. Ok, il est sur ma liste effectivement Netflix.
Go go go.
Ok.
Et toi?
Qu'est-ce que moi je suis toujours sur Les Sopranos, hein.
Alors, t'en es où?
Bah, c'est saison 2.
Ah, t'es loin.
Bah, il y a 6 saisons.
6, ouais. Mais chaque épisode dure 1 heure, donc.
Bah, c'est ça. C'est donc long. C'est long, surtout que parfois, bah, avec le taf, quand tu rentres tard, t'as pas envie de te taper 1 heure de Soprano à finir à 1 heure du matin. Donc, je continue tranquillement.
On retournera pour parler du jeu d'acteur, etc. Et puis on reviendra surtout en parler pour la fin, parce que la fin, elle est très particulière et ça mérite d'être discuté.
Ok.
Donc d'accord. On pause. Tu as regardé l'affaire Outreau?
C'est sur ma liste, je vais pas
Mais moi, je connaissais pas cette histoire.
C'est vrai? Ah bah, en fait, en France, c'était si connu.
Oui, je sais, mais j'étais en France, donc j'en avais entendu un peu parler, mais comme je suis pas aussi addict au true crime, j'avais pas suivi. Mais c'est une histoire de fou.
J'ai pas vu.
OK, n'en parlons pas, mais quand même, ce que les enfants ont dû subir, mais ce que les personnes accusées à tort ont subi, c'est juste ça, dramatique.
Ok. Par contre, de tout ça, je sais pas, je suis même pas sûre d'avoir les détails en tête, mais c'est sur ma liste. Là, en fait, il faudrait que je fasse une pause Soprano et que je me fasse tous les documentaires là que j'ai mis en favori.
Ouais, en liste d'attente.
Sinon, alors moi, j'avais un sujet que Christophe Ondelat quand même a reposté.
Oui.
Une story.
On n'avait pas parlé de ça, moi.
Mais non.
Ah oui, c'est vrai, on a été reposté par Christophe Ondelat.
Christophe.
Charlotte est obsédée avec lui autant que la famille royale, soyons clairs.
Bien sûr. Christophe, où es-tu? Comme avec Kate.
Si, je crois qu'on avait parlé, on avait dit si, on va faire un podcast ensemble. Mais
oui,
Christophe,
mais parce qu'on en parle souvent de lui.
Mais on a fait déjà dans notre podcast.
Mais non.
Oui, si, je crois.
C'est vrai.
Bon, on a pas de mémoire. Hein.
Je pense qu'on en parle beaucoup. Hein.
On parle de.
Au moins une fois tous les deux épisodes.
Même tous les épisodes.
Et ouais, bon, écoute, pardon Christophe, c'est un peu creepy. Ensuite, j'avais comme sujet, parce que ça devient très problématique chez moi, parce que donc on s'appelle les meurtres du vin, le vin effectivement, mais le vin devient problématique dans ma vie de tous les jours, parce que Instagram me pousse à acheter des choses. La dernière fois, j'étais chez toi, on avait bu, j'ai réservé un hôtel en Grèce.
Super. As you do.
Of course. J'ai commandé un corset. Quand est-ce que tu m'as vu avec un corset d'abord?
Alors, non, quand tu me l'as envoyé par message, ma première question, c'était « why ?» Et ma deuxième question, c'était « combien t'as payé ?» Ou j'ai un peu...
100 euros
Ah, les yeux qui m'ont sorti de la tête. Et tu l'as toujours pas reçu?
Si, je l'ai reçu, là.
Alors?
Ben, il ne va pas, bien sûr, parce que je ne l'ai pas essayé avant.
Mais en fait, je suis sérieuse, parce que Instagram, comme j'y vais pour le podcast, et du coup, forcément, t'es comme dans tous les médias sociaux, enfin, voilà, c'est un piège. Et il y a toute plein de pubs. Et en fait, j'ai le réflexe maintenant d'aller regarder le nom du shop et avis.
Ouais.
Et c'est que...
C'est que de la merde.
De l'arnaque.
Ah ouais.
Donc, du coup, et quand moi, tu m'as envoyé ton truc de ton corset, je suis direct allée regarder et c'était marqué partout « arnaque ».
Après, si j'avais plus de boobs, franchement, il aurait été top.
Bah, tu me le donnes.
Ah, j'ai déjà promis à une pote.
Oh, quoi ?
Qui mettra plus de corsets dans sa vie de tous les jours, oui, que
moi,
toi.
Je ne le mettrai pas non plus.
Voilà, merci. Donc,
ça servira pas.
Voilà, assume.
C'est vrai, c'est vrai.
Laisse non, le corset je suis d'accord. Au corseteux, alors, s'il te plaît.
Tu vois le truc Instagram, donne-moi.
Donc voilà, donc, il faut que je... En fait, il faut que je trouve un truc. Tu sais, parfois, il y a des trucs où tu bloques tes cookies, tu sais, dans un bocal que tu ne peux pas ouvrir. Mm. Tu mets un code, tu ne peux pas ouvrir. Et moi, il me faudrait faire ça avec mon...
Ah oui, oui, oui. Après une certaine heure du soir, t'as plus le droit d'utiliser la carte bleue. C'est
et
bien
il faudrait
ça.
Que j'ai un éthylotest de carte bleue. Tu vois, genre, veuillez valider cette transaction.
Alors, moi, il m'est arrivé une fois, je ne sais pas si j'en ai parlé dans le podcast, mais j'avoue, j'ai dû boire quelques verres en trop. Et genre, deux jours plus tard, je vois un message de Cézanne, votre commande est en préparation. Je dis, mais quoi ?
Quelle commande ?
En plus, Cézanne, quoi. Oh, ok. Et j'ai commandé quoi ? Alors, j'ai commandé donc, des talons vertes en velours. Je ne porte pas trop de talons, les chaussures vertes, pourquoi pas.
Ni de verre, ni du velours.
Et j'ai acheté une robe, mais une robe de bal, quoi. Mais violette, en soi.
Et là, à ce moment-là, tu t'es dit, oh, vert et violet, c'est parfait.
Alors, oui, apparemment. Alors, du coup, j'ai rigolé, j'ai reçu le colis. Je l'ai essayé, j'ai pris une photo pour être mort de rire pour t'envoyer.
J'ai jamais vu cette photo.
Ah, je te montrerai. Ouais. Et j'ai de suite renvoyé la robe en soie de bal parce que j'ai vraiment pas l'occasion de le porter.
Non, on n'a pas trop
mais
de...
Mais j'ai gardé les talons.
Tu as raison.
Pourquoi pas ?
Vis dangereusement.
Mais voilà, c'est ça. C'est ça, il faut le faire. Attends, alors je vais sauter certains sujets parce qu'on en fait tellement, bien que j'ai une histoire qui est très courte ce soir, donc
c'est
pas
vrai.
Le droit de faire du blablabla.
Voilà, c'est juste pour ça, pour les skippers, skipper arrête de skipper, son histoire est très courte, la mienne est normale.
Voilà, donc moi ce qui m'a fait rire,
vivre.
Donc c'est toi qui m'as parlé de cette série, Love is Blind, en français. Non, mais attends, tu m'en as parlé, je savais pas ce que c'était, là je me faisais un peu chier, j'ai dit bon je regarde. Alors, ce qu'il faut savoir c'est que moi je croyais que c'était comme Love on the Spectrum, genre les gens qui trouvent l'amour avec l'autisme et des gens aveugles. Donc si tu veux, je suis complètement perdue quand ça commence.
Allez, imagine il y aurait eu un parcours pour aveugles. Go!
Non, mais.
Ça serait jamais terminé.
Non, mais je sais pas, mais ça serait vraiment ça, quoi, en tout cas. Enfin, bref, c'était pas du tout le concept, donc
non,
j'avais pas compris. Mais en tout cas, les gens, ils sont cinglés. Enfin, c'est hyper américain, je suppose que ça doit se faire ailleurs aussi.
Mais
qu'est-ce
là-bas,
que c'est débile?
Bah oui.
Et en fait, c'est vraiment, apparemment, par contre, donc je suis arrivée quand même à la fin, parce que je voulais pouvoir en discuter avec toi.
Oui, ça doit être pour ça.
Et je pense qu'ils ont quand même démontré qu'il y a certains qui l'ont fait juste pour passer à la télé. Et ça, c'est clair et c'est net.
Bien sûr.
Mais ils font aussi, par exemple, tout un caca boudin. Et donc, des gens, apparemment, les participants, qu'ils ont fait ça pour la télé ou pas, c'est bon, on est en 2024. On sait que la télé-réalité, c'est de la merde. On sait qu'il y a plein de gens qui font ça juste pour passer
pour la
à la télé.
Bien sûr.
Ben, voilà, donc du coup, j'étais un peu choquée par la réponse des gens. Genre, t'as pas respecté le processus. Mais bien sûr que si. Enfin, bref, je... Des gens sont cons. Et par exemple, en plus, il y en a un qui ont fait une des blagues, genre le bean dip. Tu vois,
oui.
Celle-là bon, apparemment, bean dip en anglais, bon, moi non plus, je ne connaissais pas. Apparemment, c'est de prendre le sein d'une femme ou de ta copine et de le taper dedans.
Ouais, genre comme
donc,
un...
toucher l'haricot. Enfin, je sais pas. J'ai pas compris la blague. Mais ils font tout un
tout un truc là-dessus, mais comme... parce que c'est des Américains, c'est genre, mon Dieu, je suis choquée.
Mais on s'en fout, mais moi, je t'ai déjà fait des bean-dip, mais pour déconner entre copines, et c'est pas grave.
Oui, enfin, bon, bref.
J'ai pas compris.
Mais parce que les Américains, pour ça, c'est un truc de fou. Enfin, pas toi, parce que toi, tu viens de Californie de parents hippies, mais...
Et puis, ça fait longtemps que je suis en France.
Et puis, ça fait longtemps que t'es en France, mais c'est un truc de fou. Genre, le moindre truc, c'est, oh, je voudrais revenir sur ce sujet où tu as dit que tu... C'est bon.
Les gens se mettent dans une position délicate parce que les gens
parce
le prennent
qu'ils cherchent
trop
le drame.
Au sérieux, quoi. Ah ouais.
Attends, par contre, j'ai un peu soif.
Alors, on va parler du vin.
Maman.
Marie. Pardon.
Maman qui nous écoute toujours. Hein.
Alors, c'est Charlotte ce soir qui a choisi. Il s'agit d'un blanc Les Petits Travers, masse de Cairn. Donc, c'est une Cambise blanc 2022. Alors... C'est un IGP, donc indication géographique protégée de l'Hérault. Moi, je connais pas.
Ah.
Et apparemment, c'est les vignes de Puech de Cambuse. Voilà. Donc, il est pas mal.
Ouais.
Et
oui, j'avoue que
ça
se
déguste
goûté.
Facilement. Oui, parce que j'ai par erreur.
Oh,
pas mal.
Pas pire.
J'ai enlevé le bouchon bêtement avant de commencer.
Le bouchon m'est tombé dans les mains et je me suis servi un verre complètement par accident. Ouais, non, moins bien.
Donc, tu pourras donner ton avis.
Attention.
Mais il est pas mal.
Un peu d'ASMR.
Voilà. Alors, j'ai une dernière sujet. Après, on va passer aux choses sérieuses. Murder.
Ouais.
Je tombe sur un truc. Donc, apparemment, une histoire conspiratoire.
OK.
Que je n'ai jamais entendue. Mais j'ai des morts de rire.
Sur
apparemment.
Sur Kate Middleton?
Non. Lol. Mais pas loin.
OK.
Mais alors, vraiment, j'ai, apparemment, c'est un gros truc sur Internet. Il y a plein de gens qui en parlent. Comme quoi, Brigitte Macron est un homme.
Ah, oh, mais oui, ça fait longtemps que les gens disent ça.
De quoi?
Mais non, mais pas du tout.
Mais bien sûr, je sais que pas du tout.
Voilà, mais non, mais ça fait longtemps qu'ils disent ça, parce que bah, c'est un couple pas conventionnel. Clairement pas conventionnel, mais elle est un peu carrée. Elle est un peu carrée de stature, de physique, et plus âgée, donc du coup plus dure de visage. Et du coup, il y a ce truc, parce qu'il y a aussi cette rumeur comme quoi Macron serait gay.
On s'en fout.
Complètement. Ça serait bien d'avoir un président gay. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui seraient un peu plus simples. Et du coup, vu qu'il est gay...
Pour changer aussi, quoi.
Ouais.
Bah, mix it up.
C'est vrai qu'on n'a pas fait ça, un président gay. Enfin,
publiquement, vrai. Soyons clairs.
Ouais, c'est clair. Et du coup, voilà, c'est ce truc de Brigitte Macron est un homme.
Alors, écoute, moi, j'avais jamais entendu ça, mais bon, mort de rire, j'étais là, mais et tu n'importe sais quoi. Comme même... le truc de Hillary Clinton
Obama
dans la pizzeria
aussi, Michel Obama aussi,
qui trafiquait les enfants.
Oui, aussi. Mais Michelle Obama, ils disent, par exemple, quand ils font des slow-mo où elle est en train de marcher, et du coup, les plis de la robe font une espèce de gros plis au niveau de laine, et du coup, ils font « Oh, regarde, elle a son gros kiki qui ne pas, tu vois. » Donc, Michelle Obama aussi est un homme, d'après les Républicains.
Oh my God, on vit dans un monde de fous.
Complet.
Alors,
donc, parlons de meurtre.
Passons. Bon, alors, je te l'avais dit, donc c'est pour ça qu'on a passé un peu de temps à dire n'importe quoi, parce que
désolé,
mon histoire...
But this is us, people.
Oui, c'est un peu le podcast. Mon histoire, elle est courte, mais elle va mener à une discussion, peut-être ou pas. Voyons voir. Es-tu prête?
Oui, chance.
Donc, je raconte l'histoire de Marianne Backmeyer. Alors, c'est allemand.
Backmeyer,
je sais pas. C'est allemand, on va le dire Backmeyer. Et si c'est pas ça, ben, je sais pas quoi.
Fick dich, which means fuck you in German.
Ah, really?
Yeah.
Fick dich. Fuck this. It sounds just like fuck this.
Fick dich.
Fick dich. Oh, fake dick. Fuck dich.
No. Well, this is
fine. Ouais, passons. Donc, Marianne, c'est une... quand on parle de Marianne Backmeyer, même pour voir c'est nous, mais son nom résonne avec un profond chagrin et une grande controverse en Allemagne. C'est un récit assez complexe parce qu'on va croiser des thèmes de la justice, de l'autodéfense et du deuil maternel.
Du deuil maternel, OK.
Deuil, ouais, maternel. Okay. Donc, Marianne, elle est devenue une figure controversée de l'histoire allemande à la suite de son acte d'autodéfense sans précédent dans une salle d'audience en 1981. En fait, son acte a suscité un énorme débat et une frénésie médiatique. Il y a une des vidéos que vous pourriez aller voir.
Okay.
Qui a ensuite soulevé forcément des questions sur les limites de la justice, les profondeurs de l'angoisse d'une mère et les strates complexes de la vie, de la perte tragique, qui a propulsé Marianne sur le devant de la scène et aussi des implications, disons, sociétales et juridiques face à sa réaction.
Vous avez 2 heures.
Non, elle est hyper courte. Mais
j'ai l'impression que j'ai un examen là, que j'ai pas étudié.
Non, tu vas comprendre assez rapidement. Donc Marianne, elle est née le 3 juin 1950 à Sarstedt en Allemagne. Son enfance a été marquée par des bouleversements et certains défis. Son père, par exemple, membre de la Waffen-SS, qui jouait un rôle assez important dans sa vie dès ses premières années. Donc, du coup, le dynamique familial a changé lorsque les parents se sont séparés et que sa mère s'est remariée. Après, à son adolescence, ça a pris un petit tournant tumultueux, mais j'ai envie de dire... comme tout le monde.
Oui, ouais.
Mais à l'âge de 18 ans, elle est devenue maman à 2 reprises et les 2 enfants ont été adoptés. Donc, en fait, si tu veux, cette première expérience, on a l'impression qu'on dresse un peu le portrait d'une jeune femme qui a des luttes personnelles, qui est très probablement soumise à des jugements sociétaux parce que, en 1968, on est enceinte, on fait adopter deux fois, compliqué. Et elle reste encore très jeune. Donc, ça doit pas être facile. Donc après, le chapitre dont on va parler en particulier va commencer après que sa troisième fille, il s'appelle Anna, en fait le 5 mai 1980, Anna, la fille qui n'a que 7 ans, au lieu d'aller à l'école, elle rencontre un homme qui s'appelle Klaus Grabowski. C'est un boucher de 35 ans qui a des antécédents de maltraitance d'enfants. Cette journée mène forcément à le crime inqualifiable où Anna est enlevée et brutalement tuée. Les détails du crime tels qu'on peut les voir dans les enquêtes et le procès ont relevé que c'était un niveau d'abus et de meurtre qui est complètement effrayant et tu me connais très bien, je ne vais
pas, ne vas pas en parler.
Rentrer dans les détails. Grabowski a avoué, et pour sa défense, il a invoqué un, entre guillemets, déséquilibre hormonal dû à une castration antérieure et une thérapie hormonale.
Oh mon Dieu. T'imagines si les femmes en disaient ça, j'étais sous ma...
Mais en fait, on l'accuse des femmes avec cette excuse. C'est pour ça que tu l'as fait et elles sont coupables quand même.
J'étais sous pilule, j'ai mon...
C'était mon contraceptif. Ouais, mais...
Désolé.
On est d'accord que c'est absurde. Mais ça a quand même rajouté des couches de complexité, de controverse à son acte. Donc ça se discutait, tu vois ce que je veux dire. Donc déjà, tu as des questions. Donc le système judiciaire à l'époque a été assez critiqué pour le rôle qu'il a joué, en permettant donc à cet homme de bénéficier de une sorte de politique de traitement des délinquants sexuels, en fait. Genre, il y avait une excuse presque. Ouais. Et donc déjà, l'histoire faisait une énorme polémique. Donc, il faut imaginer Marianne, avec souffrance, trauma, etc. des enfants, sa fille, la seule dont elle a gardé, il est enlevé, il est tué tragiquement. Comment tu te ressens en tant que mère?
Ouais.
Et voilà comment la défense est présentée dans la presse.
Et comment on te protège, en fait?
Voilà. Et comment, qu'est-ce qui va en arriver de cet homme qui a déjà des antécédents? Ouais. Donc, qui a réussi à répéter un crime ou encore aller plus loin dans son délire.
C'est vrai.
Elle reste à côté. Quelle est ta réponse en tant que mère?
Ah.
Je ne sais pas. Ah en tout cas.
Je peux pas savoir non plus.
Voilà. Donc, ça a poussé Marianne à entreprendre l'action qui va faire que son nom sera gravé dans les annales des débats juridiques et moraux. En fait, le 6 mars 1981, lors du procès de Klaus Grabowski, dans un acte dit d'autodéfense, Marianne va rentrer dans l'audience où elle devait être tous les jours. Mais aujourd'hui, elle a une Beretta calibre 22. Et dans le tribunal, dès la première instance, en plein procès, elle va lui tirer 8 coups de feu.
Yes.
Boum, 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 boum.
C'était 8.
6,
hein?
Je ne sais pas, je n'ai pas compté. L'ont atteint. Et il est mort immédiatement. Alors voilà, exactement sur le sol. Et dans la salle, devant l'audience. Donc, il y a une vidéo en ligne. Tu peux la voir tirer.
C'est vrai?
She's a fucking badass.
Yes, Marianne.
Et voilà. Et d'où le débat. Tu vois, l'histoire, elle est courte, mais il y a de quoi en dire. Donc, forcément, c'est hyper choquant.
Bien sûr.
Mais pas seulement la réponse d'une mère, mais c'est l'assassin de son enfant. Il y a un symbole de défi directement envoyé au système judiciaire qui, en fait, mène à mal ce procès. Et c'est devenu vraiment un point d'indignation dans toutes les discussions et de la justice et en fait de ce que c'est la vengeance, quoi.
Ah ouais, c'est fou.
Voilà. Donc, la réaction du public est profondément divisée. Et tu peux l'imaginer, en fait.
Je comprends.
Il y a, dans un premier temps, il y a vachement de sympathie. Il y a plein de gens qui comprennent tout à fait ses motivations. Ils disent que c'est une mère endeuillée. Elle cherche à obtenir justice pour sa fille. Mais cependant, au fur et à mesure que les détails de la vie de Marianne et donc son, ses antécédents de jeune mère qui a fait adopter ses enfants,
Ah, ça me, c'est horrible, ça, je déteste.
Ils vont aller dans les détails de sa vie, les complexités de l'affaire apparaissent et donc là, les opinions commencent à diverger. Voilà. Les médias, comme toujours, jouent le rôle crucial dans, on va dire, la formation de la perception du public, parce que c'est ça.
Mais bien sûr, en fait, il y a tellement d'affaires où l'affaire était tellement publique par les médias. Et après, comment tu veux décider d'un jury? C'est pour ça qu'il y a certains procès, d'ailleurs, qui ne se font pas dans le même état, par exemple, aux États-Unis.
Parlons de Amber Heard et Johnny Depp, du procès aux États-Unis.
Par exemple, les gens sont déjà biaisés.
Complètement.
Avant même de mettre un seul pied dans le tribunal. Et ça, c'est pas normal.
Alors là,
les médias, ils se rendent pas compte à quel point ils peuvent.
Ils savent tout à fait à quel point. Et c'est pour ça que Murdoch est propriétaire de tout. Le média, ça contrôle le monde.
Ils font tout balancer.
Mais là, dans ce cas-là, en fait, on voit la réaction, on va dire vitale, la réaction, tu sais, le
viscérale.
C'est. On comprend l'action de cette femme. Et ensuite, les médias plantent la graine de une femme qui manque de respect, c'est une femme qui sait que ça. Et on va complètement rendre cette histoire tordue. Je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut réagir, mais je dirais que je serais à sa place. Why the fuck not?
Non, voilà, on ne donne pas de conseils parce que qui sommes-nous pour donner des conseils?
Mais
clairement. Moi, je suis désolée, mais ça, en fait, ça me fait penser un peu au jugement d'il y a bien longtemps, The Times of Yore, où t'as tué mon enfant, vas-y, tu vas à l'échafaud et je peux porter le coup, quoi.
Tout à fait. Donc, en gros, on a deux côtés du média, et que ce soit en Allemagne où apparemment l'histoire a fait beaucoup de tours du monde, hein, forcément, parce qu'elle est. Elle est ce qu'elle est. On a d'un côté une mère désemparée poussée à bout et les autres médias, donc la gauche et la droite, hein,
parce qu'on clair.
sur les implications de sa prise en main de la justice et ce n'est pas acceptable.
Nous sommes dans une démocratie, merde.
Mais bien sûr, mais c'est comme tout, c'est comme on parlait, on a récemment eu des discussions de Naël.
Oui,
ce qui a suivi son décès, moi je suis navrée, on n'a pas place à commenter sur le ressenti des personnes dans une position défavorable ou qui se font face à le racisme.
Bien sûr.
Alors qu'ils sont heurtés qu'un jeune homme non armé soit tué parce qu'il essayait de fuir. Enfin.
Clairement. Et en fait, c'est souvent. Je sais plus ce que je voulais dire. Bon, c'est pas grave, mais je suis d'accord. Je suis d'accord avec tout.
Donc, forcément, il y a une conversation qui va commencer sur les limites de la justice, le rôle du système juridique, les implications éthiques, etc., etc.
Ah oui, non, c'est ça que je voulais dire. Souvent, dans des affaires, en fait, le problème, c'est que parfois. Enfin, je suis désolée, mais je sais pas si les gens seront d'accord avec ça, mais parfois, il faut faire du cas par cas.
Bien sûr, je suis entièrement d'accord. Voilà. Ouais. Et donc, par la suite, donc Marianne a été jugée pour le meurtre de Klaus Grabowski.
OK.
La procédure a été assez marquée par un débat sur la question de savoir si les actes de Marianne étaient prémédités, s'il s'agissait d'un acte de passionnel spontané.
Oui, c'est vrai que ça change la donne.
Oui, la défense soutient forcément que l'acte n'était pas prémédité, ce qui a visiblement largement été confirmé par le tribunal. Et après une série de négociations et de délibérations, et le média qui continue à couvrir tout ça, forcément, Marianne a été reconnue coupable d'homicide involontaire et non de meurtre.
OK.
Le tribunal a estimé que ces actes étaient prémédités, mais ils ne constituaient pas un meurtre au regard du droit allemand, ce qui est assez intéressant. Et donc, en mars 83, elle a été condamnée à 6 ans de prison pour homicide involontaire et détention illégale d'une arme à feu. Elle n'a purgé que 3 ans de cette peine, bénéficiant d'une libération anticipée en raison d'inquiétudes concernant sa santé mentale. Mm-hmm. Ce que je trouve très bien, et aussi du fait qu'on a été considéré comme présentant un risque de suicide. Donc, sa libération anticipée qui a suivi différentes controversées en eux-mêmes, ils vont réalimenter les débats sur le système judiciaire. et le concept en fait de rétribution, le rôle de la tragédie personnelle dans l'élaboration des résultats juridiques. Donc okay. Ça, c'est vraiment un concept que je trouve très intéressant, puis qui, comme tu dis, quand on parle de situation personnelle, on pourrait utiliser ça, on peut se positionner en victime alors oui, qu'on n'est pas du tout.
Ouais, ou et en puis fait, faire justice soi-même.
Exactement. Non, donc non, il faut, c'est vraiment une discussion
c'est
au cas par cas.
Très compliqué.
Voilà. Alors, ça a mis forcément tout ça a mis en lumière plusieurs questions existentielles en fait ou essentielles plutôt, notamment le traitement des délinquants sexuels. Donc, par exemple, Klaus qui avait déjà été connu.
No shit.
On pourrait en parler. J'en ai pas parlé, mais il y a un documentaire aussi Quiet on Set qui parle des abus sexuels.
Ah, je l'ai pas vu.
Alors moi, je l'ai vu.
Faut que je le voie.
Des jeunes acteurs hollywoodiens.
Genre Amanda
Bynes. Ou des personnes en fait continuent à travailler alors qu'ils ont été condamnés. Ils sont enregistrés comme des
délinquants sexuels.
Dans les délinquants sexuels et ils continuent à travailler dans l'industrie
avec des mineurs.
Du cinéma
ouais.
Avec des mineurs.
Ah non, mais c'est
parce qu'il y a très peu de films qui sont tournés sans zéro enfant. Hein.
C'est
enfin.
Une catastrophe.
Catastrophe. Et voilà, l'affaire reste un élément important de l'histoire juridique. Et malheureusement, Marianne, elle est morte relativement jeune, je pense, d'un cancer.
Ah,
donc, elle n'a pas une fin bien heureuse, mais en tout cas, elle a une histoire, je pense, qui mérite d'être racontée.
Ah ouais, grave.
Et qui donne sujet à réflexion.
Mais je connaissais pas du tout, je suis fan de cette histoire, c'est génial. Mais du coup, en même temps, je regardais un peu les photos, effectivement, c'est fou. Hein. Tu la vois, on dirait qu'elle fait une, comment tu dis, une reenactment.
Oui, comme genre, si elle était actrice.
Ouais, enfin, qu'elle le refait pour les flics,
mise en scène.
Une mise en scène, comme si elle le refaisait.
Et en mais fait, en fait, c'est la vraie vidéo.
Ouais, c'est marrant. Ouais, je regarderai la vidéo.
On
je la mettrai pas sur...
Bon,
si, je la mets tout sur Instagram.
Mais pas... Elle est... En fait, on voit qu'elle, on voit pas...
Ah, ok, d'accord.
On voit pas Klaus,
parce que ça me
on
fait
voit
penser,
elle qui tire.
Tu connais... Enfin, t'as vu cette vidéo de ce mec qui s'est suicidé en direct aux États-Unis?
Aux États-Unis, c'est pas en... au Japon?
Non.
C'est un truc politique?
Il y en a un aux États-Unis aussi.
J'ai vu celui du Japon.
Ça, j'ai pas vu.
Oui, mais moi, tu me connais, moi, j'ai du mal, je peux pas.
Mais moi, ça m'avait choqué aussi. Et ça, c'était maintenant, c'est un Américain sur un plateau télé et qui se suicide avec une arme à feu. C'est, en fait, c'est tellement, c'est choquant, quoi.
Ah ouais, ça heurte.
C'est affreux. Donc, ouais, super intéressant. Moi, je suis Team Marianne.
Ouais, moi aussi, forcément. Puis je suis maman aussi, donc.
Voilà. Puis tu sais que la personne est déjà sortie, vu que il est.
Je trouve
connu.
Qu'elle a été clémente, hein, parce que moi j'aurais aimé faire pire.
Ah, clairement. Clairement, un petit ragoût de testicule.
Avec un peu de sel derrière.
Ou pas, juste
tu pousses la torture jusqu'au bout. Tu mets du sel, bout. Tu vois, pour.
Ah oui, sur la plaie ouverte.
Voilà.
Ouais, c'est vrai. Ouais, très intéressant.
Voilà.
Et c'est donc... très drôle. Enfin, non, pas du tout, c'est pas lolilol, mais c'est marrant.
C'est ironique, c'est...
Non, non,
c'est une coïncidence.
C'est une coïncidence, c'est assez drôle dans le terme coïncidence, parce que j'ai une histoire un peu dans le même acabit.
Ah ben,
acabit. Du même acabit, même on dit.
Intéressant.
Bah oui, alors...
Les bonnes esprits.
En fait, aujourd'hui, toi tu auras le meurtre, moi j'en ai pas.
Ah, très bien. I love it. Ah oui.
Par contre, prépare-toi pour la prochaine, parce que ça fait quelques temps que je n'ai pas fait un truc un peu dégueulasse.
Ok, I'm ready.
Voilà. Et en fait, j'ai voulu parler de cette histoire parce que je connaissais cette histoire. Et je ne sais pas pourquoi, au début de mon texte, j'ai mis que je voulais faire un truc pour célébrer le fait que la France était le premier pays à inscrire la liberté au recours à l'avortement dans sa constitution.
D'accord.
Cocorico. Woohoo. Parce qu'il n'y a pas du tout d'histoire d'avortement dans cette histoire. Donc je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça.
Je sais savoir pourquoi on a dit des choses.
Non, c'est... en fait, je pense que c'est vraiment plus la liberté de la femme. Tout ce qui est historique et la liberté de la femme et les femmes qui prennent leur liberté plus qu'autre chose. Donc là, par exemple, dans ton histoire, elle a pris la liberté de se venger, en fait.
Oui.
De venger sa fille. Et moi, ça va être une histoire un peu dans le même style, mais elle va se venger, elle.
Ben, c'est très bien.
Voilà. Donc, j'ai parlé de l'histoire de la badass Franca Viola.
OK.
On est en 1963 en Sicile. Hop, petite mandoline.
She loves her Sicilian stories.
À Alcamo. Franca Viola a 15 ans. C'est la fille d'une famille d'agriculteurs, en fait, donc... pas forcément énormément de moyens ou de pouvoir per se, mais en tout cas une famille très unie, ce qui est déjà pas mal. Franca est décrite par tous comme étant très belle. Ce qui lui donne un avantage, on est en 1963, hein, pour bien se marier, car à l'époque, le seul souci des femmes était de bien se marier. En fait, tu maries ta fille avec une personne qui te donnera un petit peu plus, quoi, qui a un peu plus d'argent, etc. Donc, en effet, elle attire le regard de quelqu'un qui, sur le papier, est un très bon match Tinder. Il s'appelle Filippo Melodia. Il a 23 ans.
J'adore.
Filippo Melodia.
Filippo Melodia.
23 ans, vient d'une famille aisée, plutôt beau, plutôt agréable à regarder, de très bonne connexion, mais parce qu'il y a toujours un but, le neveu d'un membre très haut placé, d'un très haut grade de la mafia sicilienne.
Ah, après, voilà. C'est les Sopranos qui t'ont inspiré.
Voilà, ils ne peuvent pas être parfaits. Vas-y, on les laisse. Donc, Filippo se pavane dans les rues de la ville avec son Alfa Romeo blanche qu'il appelle Julieta.
En plus, j'adore, c'est un Alfa Romeo. Genre, j'ai le truc plouc de riche.
Ah, de base, blanche en plus.
Ah oui, en plus. Oui, mais c'est des années 80, un truc comme ça. Hein.
Pas du tout, ça fait 30 secondes que je raconte l'histoire. J'ai dit deux fois 1963.
Mais elle est née en 1963, j'ai cru.
Non, on est en 1963.
Ah, pardon, elle est née, moi, j'ai entendu.
Non, alors, ok, d'accord. Elle joue sur la carte de oh, « I'm American ».
I don't understand.
Noble française. Donc, Julieta, donc, il se pavane dans les rues comme s'il était le maire de la ville. Tu vois le genre un peu.
Le maire de mon village, il a une voiture blanche, hein, mais bon, c'est pas une Alfa Romeo, c'est un Peugeot, c'est un Français.
Bah, essaye de lui parler italien pour voir s'il répond.
Non.
Mais malgré tout ce qu'il possède, il n'a pas la seule chose qu'il veut vraiment. C'est-à-dire Viola. Franca Viola.
Ouais. Ah, Franca.
Non, Franca Viola.
Merde, ça fait Franca et pas Viola, c'est confusant. Ça porte à confusion. Ok.
C'est raciste.
Franca.
Franca Viola. Donc, okay. Filippo se met à courtiser Franca. Elle a 15 ans, il en a 23. Mais bon, on est en 1963.
Oui,
it's voilà. It's okay. Et il finit par la demander en mariage. Donc, Franca est intéressée au début, parce que bah, c'est comme un rêve, en fait. Elle vient d'une famille qui est relativement pauvre. Et elle tombe sur le mec qui
avec son
beau,
Alfa Romeo blanche.
Qui a une Alfa Romeo blanche, qui a de l'argent, qui a des contacts, qui a du pouvoir dans la ville.
Ouais.
Enfin, c'est le top du top. Le top du top. Mais Franca, qui est très mature pour son âge, n'accepte pas de suite la proposition de mariage parce qu'elle veut le connaître avant de prendre une décision.
Franca, bien.
Non, mais ouf.
Bien rouge.
C'est clair.
Non, ouais. Bien ouige ou bien wouge. C'est quoi le truc, Berlin?
Quoi? Bien ouige.
Ouais.
Bien ouige. J'étais là, ouige. Ouige, c'est ouigi. Un joint. Okay. Donc, au bout de quelques temps de fréquenter donc le Filippo, sa mauvaise attitude finit forcément par ressurgir parce que tu ne peux pas cacher ta propre personnalité très longtemps, n'est-ce pas?
À mon avis, quand on fait partie de la mafia, on a quelques défauts.
Tu fais pas la vaisselle, par exemple.
Ou peut-être parfois tu es un peu violent, par exemple.
Ou tu ranges pas tes chaussettes. Moi, tu vois où est mon importance, moi?
11 ans plus tard.
Voilà. Donc, à un moment, Filippo se fait même arrêter pour vol et le père de Franca, là, il dit « C'est bon, stop, j'arrête tout. » Il refuse complètement la proposition de mariage de Filippo et demande à sa fille même d'arrêter de fréquenter ce qu'elle fait. Parce que c'est une fille bien et que et c'est une famille unie, encore une fois. Donc là, on est 2 ans plus tard, en 1965.
Ok.
Je répète pour Sarah.
1965.
Merci.
Elle a 17 ans maintenant.
Voilà, donc là, Franca a 17 ans, c'est fou, c'est ce que j'avais écrit.
Non.
Et elle est fiancée à un autre homme. Mais Filippo n'a pas oublié Franca, et surtout, en fait, je pense que ce qu'il n'a pas oublié, c'est la rejection.
Ah ben oui,
le rejet, pardon. Rejection, c'est en anglais. Le rejet.
D'être rejeté.
Enfin, ouais.
Refusé, plutôt.
Oui, voilà, le rejeté. Mais c'est possible, c'est pareil. Donc, il utilise même des stratagèmes de menace pour la forcer à se remettre avec lui. Donc, il la harcèle. Donc, il harcèle aussi le fiancé de Franca et le père de Franca. Il la stalk, il la suit. Enfin, vraiment, une atmosphère très, très lourde pour Franca et sa famille à ce moment-là, je pense.
Ah ouais.
Surtout venant de quelqu'un qui est lié à la mafia sicilienne.
Et qui est puissant.
La mafia sicilienne, quand même, et la mafia qui est top of the pops concernant les mafias italiennes. Hein.
Ouais.
Remettons ça. On remet l'église au milieu du village.
Top of the pops.
De la mafia.
C'est qui le deuxième mafia? Genre Naples. Ok, bah, et ensuite
Naples, Rome.
Il y a un ordre.
Bah ouais, c'est grave.
Moi, je croyais que c'était tous liés, genre les familles se concertaient sur leurs crimes.
La mafia sicilienne, c'est le cœur du poulet.
Oui, mais ils ne travaillent pas avec les autres familles, avec dans, toi, c'est ton terroir là-bas, etc.
Ton
mais
territoire, pour terroir, c'est le vin.
Oui, oui. Voilà.
Ben, en fait, ils ont le territoire sicilien.
Je ne sais pas. Moi, toute ma connaissance des mafias, même des films et de Sopranos, hein, elle est vraiment pas réaliste, disons.
Donc, plus Filippo harcèle Franca, plus elle le rejette et plus ça escalade, évidemment. Donc, il est même lié à un incendie qui se passe à la ferme des Viola, qui détruit des équipements essentiels pour leur travail d'agriculteur. Et un peu plus tard, quelqu'un détruit carrément toutes les cultures de la ferme familiale.
Ah ouais, putain, c'est grave.
C'est très grave. C'est un énorme coup dur pour la famille qui doit se préparer pour l'hiver avec pratiquement pas d'argent et pas de terre et pas de culture, rien. Oh, et l'hiver en Sicile en 1960
Le 3, 5. 5.
Voilà. C'est un secret de polichinelle que Filippo donc, est le mastermind derrière tous ces accidents. Mais ils n'ont aucune preuve tangible et donc on peut...
Et en plus, la police locale doit être du côté de Filippo et pas des petits agriculteurs.
Voilà. Donc, sans oublier, c'est ce que je dis, voilà, cette connexion avec la mafia, donc personne ne dit rien.
Ouais.
Et Filippo, du coup, est libre de continuer de harceler la famille Viola. Il se montre même devant leur ferme avec un flingue, en fait. Quand il les croise dans la rue, il sourit de façon diabolique. Enfin, il est
taré, quoi.
Il est taré, et il obsédé. Leur fait peur, il est obsédé. Donc, forcément, les Violas sont terrifiés. Ils ont même peur pour leur vie, à juste titre.
Mmh.
Franchement...
Là, ils ont rencontré un narcissiste qui est en plus puissant.
Très
donc,
puissant.
Danger.
Donc, le jour après Noël 1965, plusieurs voitures, à peu près, je crois, ils disent 7, s'arrêtent à la 5 ou 7 à la ferme des Viola, dont une Alfa Romeo blanche, je me demande qui c'est. Et 12 hommes masqués sortent des voitures, tirent en l'air et forcent l'entrée de la ferme des Viola, en fait. Donc, le père n'est pas là à ce moment-là, mais la mère crie à sa fille de courir, donc elle dit à Franca « cours, cours, cours », pendant qu'elle essaye de ralentir les hommes. Mais bon, t'imagines une femme qui se retrouve face à 12 hommes.
Mais il est obsédé, ce mec.
Oui. Donc, la mère se retrouve assommée au sol, et les hommes se mettent à poursuivre Franca. Donc, ils la rattrapent, et pendant qu'ils la traînent jusqu'à la porte d'entrée, le petit frère de Franca, qui a 8 ans, Mariano, s'accroche à la jambe de sa sœur et refuse de la lâcher.
Quel petit frère, quel amour.
Incroyable, 8 ans quoi.
Ah ouais.
Les hommes, aucune pitié, se mettent à frapper le petit frère, mais malgré les coups, Mariano refuse de lâcher la jambe de sa sœur.
Parce
que je pense qu'ils se rendent bien compte de ce qui s'est passé.
C'est tellement...
C'est affreux.
Ouais. C'est affreux, mais c'est aussi tellement
c'est
gens.
C'est beau, ouais. Donc les hommes n'ont pas d'autre choix que de prendre le petit frère avec Franca, donc ils les mettent tous les deux dans une voiture et s'enfuient. Donc, la police est de suite appelée. Et même si on ne voit jamais les hommes masqués, les parents savent clairement
exactement
que c'est Filippo Melodia qui est mêlé à ce kidnapping. Et heureusement, parce que c'est là où moi je suis étonnée, mais en fait, c'est vrai. Effectivement ce qui s'est passé. La police prend l'affaire au sérieux et ils font leur possible pour aider à trouver où Filippo est et où est-ce qu'il aurait pu emmener Franca. Mmh. Mais c'est là où la police voulait chercher, voulait vraiment, découvrir ce qui s'est passé et retrouver Franca. Les témoins, les personnes qui auraient pu être témoins de cette scène, donc les voisins que les policiers interrogent, ont peur et forcément disent rien. Donc Mariano, le petit frère, est retrouvé sain et sauf.
D'accord.
Il avait été jeté de la voiture pas trop longtemps après avoir démarré.
Oui, ils ont réussi.
Il a été jeté dans la voiture, il a lâché, ils l'ont pris, ils l'ont jeté. Donc il est réuni avec ses parents, mais Franca, par contre, complètement disparu. Donc pendant ce temps-là, Filippo et son crew s'arrêtent dans une ferme.
Et son crew,
ouais,
sa bande.
Qu'est-ce qu'il y a s'arrête dans une ferme qui devait appartenir à Filippo, bon, j'en sais rien. Il sort Franca de la voiture et lui dit « Quand j'en aurai fini avec toi, tu ne pourras te marier avec aucun autre homme que moi.
»
Franca est retenue pendant des jours et des jours et violée de manière répétitive par Filippo. Alors, le plan de Filippo, on est encore une fois en 1965, en Sicile, en Italie, est bien sûr de ternir la réputation de Franca et bien sûr de la traumatiser et de la dominer physiquement, psychologiquement, oui, tout ce que tu veux. Mais en plus, il sait très bien qu'en Sicile à cette époque, enfin en Italie en tout cas à cette époque, étant une jeune femme non mariée, en fait, après avoir été victime de viol, t'es donc non seulement t'es considérée comme ternie, mais tu es vraiment montrée du doigt par la société.
Ah mais alors après, tu n'es plus personne. Ça c'était partout à cette époque-là, ouais, et encore aujourd'hui dans beaucoup d'endroits du monde. Hein.
C'est pas faux. Donc il sait très bien et il espère par ce plan qu'elle sera ostracisée, donc qu'elle perdra son fiancé, qu'elle sera rejetée par tout le monde, par la société, par sa famille, etc. Et que la seule vie possible qui lui soit offerte soit une vie de pauvreté. Car sans mari, à l'époque, bah, tu ne pouvais pas vraiment t'en sortir parce que les femmes ne travaillaient pas. Quoi. Mmh. Donc, il voulait aussi...
Elle pourrait devenir une femme alors, qui vend des potions. Des potions pour tuer les maris c'est des ça. Autres.
Et c'est là où on revient à mon épisode 1.
Voilà. Remontons dans l'histoire.
La boucle est bouclée, ceci est notre dernier épisode.
Comme quoi j'écoute, hein, malgré ce qu'elle me dit.
C'est vrai. Et il voulait aussi amener de la honte sur la famille Viola qui avait déjà énormément souffert financièrement, mais il voulait vraiment
Ils ont refusé le psychopathe et voilà. Ça, c'est pas possible.
Mettre du sel sur la plaie.
Le narcissiste doit toujours avoir raison.
Alors, à l'époque, bien sûr, le kidnapping et le viol sont condamnés par la justice criminelle et sont illégaux. Mais, parce qu'il y a toujours
À quelle hauteur ?
Il y a un article dans leur code civil, donc le Criminal Code, qui est considéré comme une porte de sortie, en quelque sorte, en fait. Cet article précise que les condamnations...
Je sais que je vais en rire, mais je te prépare, mais vas-y, go.
Prépare-toi. Donc, les condamnations, les charges de viol... sont abandonnés si le violeur prend sa victime pour épouse.
Oh my god! Mais bien sûr! Mais c'est bon, je l'ai violée, mais on se marie, tout va bien.
Ok, I'll marry you. Même si la victime est une mineure.
Oh, et cette... just, what a world. I mean, on vit dans un monde... Hein,
pour les femmes.
Excuse-moi, mais 65, c'est pas hyper loin.
Non.
Ce n'est pas très loin.
Non, non, non.
C'est incroyable.
Et cette démarche avait même un nom, elle était appelée mariage réparateur.
C'est ça.
Et bon, si aujourd'hui,
non mais c'est bon, hein, mariage réparateur, tout va bien. Hein.
Ah, I'm okay. Reparatory marriage.
Yeah, okay.
Donc bien sûr, dans l'histoire italienne, il y a eu forcément énormément de femmes qui se sont retrouvées mariées à des hommes de force, car elles se sont retrouvées dans cette situation qui est absolument
fucking
horrible.
Christ.
Donc en fait, quand Filippo dit... tu ne pourras plus marier aucun autre homme que moi. C'est exactement de ça dont il parlait, en fait.
Eh ben oui, oui, oui. Il doit bien connaître le code pénal en tant que
criminel. Il était en train de faire ses études d'avocat.
Non, les criminels le connaissent bien parfois.
Voilà, exactement. Il faut, hein, c'est utile. Mm. Donc là, on est le 6 janvier, donc 12 jours après le kidnapping. Et j'imagine que Filippo est en contact avec les parents de Franca, en fait, parce que... en fait... les parents jouent le jeu assez longtemps avec Filippo pour pouvoir notifier à la police où se trouve leur fille. Donc, je pense qu'ils étaient en contact et qu'avec certains indices, ils devaient un peu jouer le jeu et ils ont compris que Franca était là-bas.
Okay.
Donc là, quand les policiers et la famille de Franca arrivent à cette fameuse ferme, Filippo pense que son plan va se dérouler comme prévu. Donc voilà. Il est là,
smooth.
Vous êtes enfin là.
Je vous attendais.
I was waiting for you.
L'apéro.
Les glaçons sont en train de fondre, dépêchons-nous.
Voilà.
Pendant que Franca s'écroule dans les bras de ses parents, Filippo est arrêté, mais complètement calme. Il sourit, demande même à un policier une cigarette. Enfin, tout va bien dans sa vie. Mmh. Il se retourne vers Franca et attend qu'elle dise des mots magiques, ok, je...
Elle est où ma bague ?
Ouais. Alors moi, j'aime bien les Princess Cut, tu vois.
Oui, voilà, je préfère l'or que l'argent.
Voilà, ça me va mieux autant. Donc, mais Franca fixe Filippo du regard et lui dit « Je ne t'épouserai jamais ». Donc, Filippo est arrêté.
Franca's a badass.
She's a bad bitch, man.
I love her.
Yeah, me too. Donc, Filippo est arrêté et emmené en prison. Donc, là, c'est super, mais du coup, Franca doit accepter. Si elle ne l'épouse pas, c'est qu'elle accepte les conséquences de son attaque, en fait.
Mm-hmm.
Donc, à ce moment-là, Franca Viola est la première Italienne à refuser une demande en mariage réparateur. Première.
Nice.
Donc, chose qui n'est pas commune, la famille de Franca la soutient complètement, alors qu'en général, la famille serait rejetée, en fait, même de sa famille, de ses amis, de qui tu veux. Donc, malheureusement, la communauté n'est pas aussi acceptante, on va dire, et révolutionnaire que la famille, car le peuple se met à rejeter la famille au complet, qui tombe de plus en plus dans la ruine. En décembre 1966, le procès de Filippo commence et regroupe plus de 500 personnes qui sont venues voir comment tout ça allait se terminer.
Ah, tu m'étonnes. Dans le petit village du Sicile,
c'est ça. Et puis, c'est la première fois.
Puis, on est en 65, hein, il n'y a pas Netflix.
On est en 66, maintenant, suis.
66. Mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Hein. En termes de télé publique, s'il y a 4 chaînes, je serais étonnée. Donc, bon,
c'est clair.
Le procès, ça doit être ouf, excitant.
Incroyable. Donc, les avocats de Filippo ont une tactique très claire, en disant en gros que Franca et Filippo s'aimaient passionnément, mais que le père de Franca ne voulait pas. Donc, ils se sont échappés. Quand elle a été retrouvée, elle a menti parce qu'elle ne pouvait pas mentir à son père. Donc, elle a dit « Oui, non, il m'a kidnappé, oui, oui. »
Ok.
Évidemment.
Oui, bien sûr, Filippo.
Écoute, ils font leur travail.
Filippo Delirio.
Voilà. Mais le fait qu'elle refuse la demande en mariage réparateur prouvient qu'en fait, elle n'a jamais été consentante. Sinon, si c'était amoureux, passionné,
non, elle serait mariée. Elle serait mariée sans problème.
Donc, Franca a aussi témoigné du harcèlement qu'elle a subi de la main de Filippo et de son calvaire dans cette ferme. Donc, elle dit à la cour « Je ne suis la propriété de personne. Personne ne peut me forcer à aimer une personne que je ne respecte pas. L'honneur est perdu par la personne qui fait certaines choses, pas par celle qui subit ces mêmes choses. » Si c'était clair.
Tiens, Franca, pour l'époque,
fuck, yeah.
Fucking go girl.
La cour donne donc raison à Franca et condamne Filippo à 11 ans de prison.
I seriously, on a eu des histoires bien pires où
avec
ils ont
moins.
Eu bien moins.
Et plus récemment.
Ah ouais, c'est ouf. Très bien.
Moi aussi, quand j'ai eu la sentence, j'étais choquée.
Excuse-moi, mais des juges de Sicile,
incroyable.
Yes.
Donc, ce qui est historique. Hein,
oui, vraiment.
Historique. Et aussi, chose aussi historique, 8 des complices de Filippo sont également condamnés.
Yes!
Non, mais on va déménager en Sicile.
Là, ce soir.
Ben oui!
Oui, c'est vrai qu'il faudrait qu'on y déménage.
Ah oui.
Baba Yaga.
Ah oui, Baba Yaga in Italia. Et tout ce qu'on avait dit à Franca, du coup, sur la vie qu'elle allait avoir, donc qu'elle serait recluse, que ses options, qu'elle serait déshonorée, etc. En fait, c'est tout le contraire qui s'est passé. À 20 ans, elle épouse son amour d'enfance. Et pour s'assurer pour assurer la sécurité du gang de Filippo, ils se marient sur une petite cérémonie privée à l'aube, gardée par des policiers. Franca Viola devient alors un symbole de liberté dans toute l'Italie. Et après leur mariage, le président d'Italie et le premier ministre même envoient des cadeaux aux jeunes mariés. Et même le pape Paul VI, c'était pas facile.
Le pape Paul VI.
Voilà, les invite à un meeting privé à Rome.
Wow, that's a big deal.
Connaissant un peu la religion catholique.
Puis les papes, ils sont.
Ils sont pas forcément très.
Ils étaient dans son pape mobile.
Ouais, mais ils sont pas souples.
Non, ils ont un planning. Hein.
C'est clair. Donc, pour être invité par le pape à l'époque, c'est la confirmation ultime, en fait, pour les cathos italiens de l'époque.
Ah, mais
quoi.
Bien sûr. Mais c'est fabuleux qu'ils ont fait ça, enfin, qu'il ait fait ça, parce que chaque pape...
Go Paul!
Mais c'est vrai que c'était un énorme signe aux Italiens,
ouais.
Et puis au monde, hein, parce que les catholiques du monde,
c'est ça.
Que le viol
c'est pas
n'est plus acceptable.
It's not okay.
C'est très bien, c'est génial.
En 1970, un réalisateur italien sort un film sur la vie de Franca, l'appelant « La plus belle femme ». Donc, « The most beautiful wife, not woman ». Et ce film confirme le statut d'icône féministe et d'héroïne nationale de Franca. Mais Franca, forcément, parce que c'est la meilleure personne au monde, n'aime pas trop la lumière et est toujours un peu gênée quand on lui demande de témoigner sur son héritage. Et elle dit, c'est très beau, « Ce n'était rien de courageux, j'ai juste fait ce que je pensais devoir faire, comme n'importe quelle fille ferait aujourd'hui, j'ai écouté mon cœur.
» C'est magnifique.
En 1966, Filippo Melodia est relâché de prison. Et 2 ans... Non, attends.
Non, 66, c'est l'heure du procès.
Non,
l'année du procès. 76, peut-être?
Maybe. Peut-être que j'ai une typo.
Non, c'est pas grave.
Donc, sur Google, vous trouverez l'information...
Éventuellement,
Filippo
est relâché.
Est relâché de prison. Sometime. Et 2 ans plus tard... Some other time. Alors qu'il sortait d'un bar, il est abattu à mort dans un règlement de compte de la mafia. That's so sad.
So sad.
Et en 1981, 15 ans après le procès, l'article sur le mariage réparateur est enfin retiré du code civil italien.
Bravo.
Bravo.
Bravo. Bravo. Magnifique.
Voilà.
J'adore nos deux histoires. C'était vraiment trop beau.
Oui.
Ça fait une thématique badass bitches.
Badass bitches.
Ah, c'est un bel épisode pour les féministes, pour les non-féministes.
Pour les violeurs, humanistes. C'est pas un bon épisode.
Oui, oui, aucune ne le sera.
Non, c'est sûr.
Yeah, fuck you, rapist. Et en
ça,
gros,
c'est notre nouveau merchandise.
Voilà, Franca, I love her. Marianne et Franca,
incroyable.
De belles exemples de femmes qui
voilà. Donc je suis assez contente que nos deux histoires soient rejointes comme ça. C'est
oui,
assez drôle.
Grave,
c'est assez
c'était
drôle.
Trop bien. J'aime bien.
Promis, et promis toi, et promis
vous,
ma prochaine histoire sera beaucoup plus sanglante.
Alors, je vous demande de m'envoyer vos bonnes ondes pour
voilà,
pouvoir...
Elle en aura besoin.
Pour pouvoir supporter cela. En attendant, comme d'hab...
Bah, si vous aimez notre podcast, et j'ai reçu des petits messages de nouveaux auditeurs qui ont kiffé notre podcast et qui ont découvert ça très récemment et qui ont tout réécouté depuis le début.
Mais par hasard.
Mais oui, en plus, par hasard. Et je suis tellement, 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 tellement heureuse. Et du coup, bah, si vous pouvez partager ce podcast, si vous pouvez mettre une note, un commentaire sur Apple, c'est comme ça qu'on sera plus visible.
Ouais.
Donc, voilà.
Et moi, j'ai reçu un message d'une copine hier qui ne savait pas qu'on faisait une podcast, mais qui, en fait, je savais pas adorer le true crime. C'est une ex-collègue et une très bonne copine. Et du coup, je lui ai dit de commencer par The 19 parce que je considère que c'est le meilleur.
Bien sûr.
Donc, Anne... Quand tu écouteras le 25, je t'embrasse.
C'est clair.
Partage et mets-nous un like.
Oui, Anne,
love
merde.
You.
Déconne pas, Anne. Allez, merci
sur
à
ce,
vous.
Bonne soirée.
Bye.
Ciao, ciao.
Si t'aimais ça, like and subscribe.